buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens. La Turquie très soucieuse du sort de la communauté tatare en Ukraine, les Legal High qui se répandent comme une traînée de poudre à Londres, un journal sur le net basé en Arctique, c'est le menu du jour. Mauvaise vibration à Ankara depuis le début de la crise en Ukraine. Située à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine, bordant la mer Noire, la Turquie a mal vécu l'annexion de la Crimée par Moscou le 21 mars dernier. Et s'il y a une question sur laquelle Ankara n'a pas l'intention de transiger, c'est le sort de la communauté tatare, minorité turcophone et musulmane de cette péninsule qu'elle dominait autrefois à l'époque ottomane. Alors la Turquie se pose en protectrice des Tatars et fait valoir l'importante diaspora installée sur son territoire depuis des générations. À Istanbul, Anand Lauer a rencontré des membres de cette diaspora, eux aussi très soucieux du sort de leur Crimée ancestrale.
L'association culturelle et d'entraide des Turcs de Crimée occupe tous les étages d'un immeuble du vieux quartier de Fatih sur la rive européenne. Comme tous les vendredis, a lieu une conférence. Ce soir-là, elle est consacrée à la langue des Tatars de Crimée. Peuple autochtone, sunnite et turcophone, les Tatars constituent 12% de la population de cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie le 21 mars dernier. Sous domination ottomane jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Tatars ont des souvenirs amers de la conquête par les Russes. Les guerres, les exodes successifs, jusqu'à la grande déportation de 1944, ordonnée par Staline. Une partie de ces exilés a rejoint au fil de l'histoire le territoire de l'actuelle Turquie. Et une grande partie de leurs descendants, des centaines de milliers de personnes, y vit encore aujourd'hui. C'est le cas de Celal İçten, président de l'association. Sa famille a fui la Crimée en 1870. Né à Istanbul, Celal a toujours su que sa mère patrie, comme il dit, était sur l'autre rive de la mer Noire.
Que ce soit mon grand-père, mon père, mes frères, nous n'avons jamais oublié la Crimée. On nous en parle depuis l'enfance, on chante toutes ces chansons, mais même si notre patrie est ailleurs, nous sommes parfaitement intégrés en Turquie. La religion, la langue, les coutumes sont les mêmes, les mariages mixtes entre Tatars et Turcs sont fréquents, nous sommes ici chez nous.
Une quarantaine d'associations fédèrent les citoyens turcs d'origine criméenne. Celle de Celal İçten est la plus ancienne et la plus importante. Elle entretient des liens étroits avec la péninsule et offre chaque année une bourse à 60 jeunes Tatars souhaitant étudier en Turquie. Mais alors que Moscou vient d'annexer leur mère patrie, les Tatars en Turquie restent relativement discrets. Celal İçten explique être en contact avec les autorités Ankara et ne rien attendre de plus qu'un soutien moral affiché.
Évidemment, nous ne nous attendons pas à ce que la Turquie envoie ses avions de chasse pour défendre la Crimée. Le simple fait que son gouvernement s'aligne sur l'Occident, sur les États-Unis, nous est utile. Dans toutes les réunions internationales sur l'Ukraine, la Turquie parle de la Crimée de son peuple tatar. Elle est notre porte-voix.
Depuis le début de la crise, Ankara a choisi la prudence, coincée entre l'incontournable partenaire russe qui lui fournit 60% de son gaz naturel, et ses alliés au sein de l'OTAN, la Turquie se garde bien de monter en première ligne. Et ce, alors même que seule la mer Noire la sépare de la Russie et de l'Ukraine, que la Crimée est à 300 km de ses côtes, et que toute escalade des tensions mettrait sa sécurité en jeu. Fatih Özbay, chercheur et spécialiste des relations russo-turques.
La Turquie n'a pas reconnu le référendum en Crimée, elle n'a donc pas reconnu l'annexion. Tout ce que la Turquie peut faire, c'est profiter de ses liens étroits avec la Russie pour partager ses craintes sur le sort de ses frères tatars. Dire gentiment mais fermement à Moscou qu'une dégradation de leur situation serait inacceptable et nuirait à la relation russo-turque.
Nazife, 39 ans, est aussi une fille de déportée. En 1944, sa famille a fui en Ouzbékistan, où elle est née. Mais il y a 13 ans, Nazife a voulu revenir sur la terre de ses ancêtres. Elle s'est installée à Bakhchisaraï, dans le sud de la Crimée. Toute sa famille l'a suivie. Mais Nazife n'a pas pu rester très longtemps.
Parce que je suis tatar, j'ai mis 7 mois à me faire embaucher dans le grand hôpital de la ville tenu par les Russes. Et alors que je suis infirmière spécialisée en chirurgie, on m'a dit « tu feras ce qu'on te dit de faire ». J'ai travaillé pendant des mois pour quasiment rien, de 9h à minuit, aux postes les plus subalternes. Dès que j'ai entendu parler d'opportunités en Turquie, je suis venue.
Cela fait donc 12 ans que Nazife travaille en Turquie, actuellement comme cuisinière, et rentre tous les 2 ou 3 mois en Crimée pour voir sa mère malade et sa fille de 19 ans. La dernière fois qu'elle y est allée, en décembre, la Crimée était encore ukrainienne. De retour à Istanbul, Nazife ne sait plus quoi faire. Elle passe des heures sur Internet à suivre les nouvelles. Bien que le président russe et les nouvelles autorités de Crimée aient promis de protéger les Tatars et que leur langue serait l'une des 3 langues officielles de la péninsule, Nazife est méfiante et imagine le pire.
Notre plus grande peur, c'est la guerre. Ensuite, que les Russes nous trompent et nous déportent une nouvelle fois. J'ai grandi avec ces histoires que ma grand-mère me racontait en pleurs. J'ai dit à ma mère et à ma fille que si quoi que ce soit arrivait, elle pouvait venir en Turquie. Mais ma mère est catégorique, elle restera là-bas. Elle m'a dit « Pourquoi est-ce que je devrais partir ? Pour leur faire une deuxième fois cadeau de ma maison ?»
Ces derniers jours, l'idée d'une autonomie des Tatars de Crimée fait son chemin. Le week-end dernier, ses représentants en congrès se sont prononcés pour. La Turquie ne s'est pas encore exprimée sur une telle option.
Portrait. Et on traverse maintenant la frontière nord de la Turquie vers la Bulgarie avec ce portrait d'un ingénieur qui a concrétisé sa passion. Il est aujourd'hui le seul constructeur aéronautique dans son pays, Damian Vodenicharov.
Tony Liev a 2 passions dans la vie depuis son enfance, les voitures de sport et les avions. Après ses études, il travaille donc à l'aéroport international de Sofia, puis dans une compagnie aérienne bulgare. Peu à peu, il grimpe dans la hiérarchie alors qu'il est pilote amateur. C'est ainsi qu'il décide d'utiliser cette expérience pour se lancer dans la construction, raconte-t-il.
Tout a commencé en 1995 avec 2 ex-pilotes de chasse. J'ai fait mes premiers pas dans la construction d'avions. Nous devions d'abord construire un petit biplan. Mais après quelques années de travail, il était évident que notre démarche n'était pas assez professionnelle. J'ai donc créé ma première entreprise en 1998.
Tony Liev crée alors son premier prototype qui fera son premier vol 1 an plus tard. Plusieurs modèles sont vendus à l'étranger où les petits avions connaissent un très grand succès depuis une 30aine d'années. Tony Liev décide donc de construire des appareils ultra légers. Les petits monoplaces et biplaces coûtent autant qu'une petite berline. Le marché bulgare est cependant restreint, explique le constructeur.
C'est un marché beaucoup trop petit. On ne peut pas compter dessus pour vendre son produit. Il faut cibler les marchés plus grands qui sont indispensables à cette industrie comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie.
Jusqu'à présent, Tony Liev a vendu 15aine d'avions dans le monde. Il compte maintenant obtenir des certificats internationaux qui pourront témoigner de la qualité de ses appareils. Entre-temps, il collabore avec des entreprises étrangères car il n'existe aucune industrie en Bulgarie qui puisse faciliter la construction d'avions.
Et pour planer sans avion, certains Britanniques recourent de plus en plus souvent au legal high, comprenez des drogues légales. Elles se vendent sur Internet ou dans la rue. Ce sont en fait des drogues dures, légèrement modifiées, si bien que leur composition ne tombe pas sous le coup de la loi. Problème, ces substances ne sont pas régulées ou testées par les autorités, bien évidemment, avant d'arriver sur le marché. Leur effet sur la santé reste donc largement inconnu. C'est un reportage de Marie Billon.
Il suffit de se promener dans les rues les plus commerçantes de Londres pour trouver des legal highs. Ces drogues légales se vendent sur l'artère commerçante d'Oxford Street, dans le marché branché de Camden et même au cœur du quartier chic de Notting Hill. N'importe qui peut acheter une de ces plaquettes de gélules, un petit paquet contenant de l'herbe à fumer ou de la poudre à sniffer. Sur Internet aussi, on peut se fournir en quelques clics. Seul souci, à y regarder de plus près sur tous les emballages, il y a écrit « impropre à la consommation humaine ».
It does seem extraordinary, doesn't it? Ça a l'air extraordinaire que des gens achètent un produit où il est écrit « produits chimiques expérimentaux impropres à la consommation humaine » dans le but conscient de le consommer. Mais c'est un double bluff. Tout le monde sait comment ces produits vont être utilisés.
Le professeur John Ramsay de l'hôpital universitaire Saint-Georges de Londres n'a pas tort. Les vendeurs refusent de répondre au micro, mais si un client demande ce que sont ces produits, ils répondent sans hésiter que ce sont des legal highs. L'emballage appelle presque à la confiance, des couleurs, des dessins type manga, un paquet arbore même une reproduction du quartier financier de Canary Wharf. La plupart des noms aussi n'ont rien d'effrayant, Green Beans ou Exodus, d'autres par contre sont plus explicites comme Bombe ou Blast.
C'est le problème, ces produits fonctionnent parce qu'ils ont l'air fun. Mais le problème, c'est que ce sont des produits chimiques non testés et qu'on n'a aucune idée des conséquences qu'ils peuvent avoir sur la santé.
Les legal highs sont des produits qui imitent les effets des drogues illégales, comme la cocaïne ou le cannabis par exemple. Leurs molécules ont été modifiées sans en altérer les effets, si bien que le produit ne tombe pas sous le coup de la loi.
Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé d'outrageusement toxique. Les produits imitent les effets des drogues, on suppose donc qu'ils imitent aussi les conséquences. Il doit y avoir 40 à 50 personnes par an dont la mort est liée à la prise de ces drogues légales. Le plus compliqué, c'est de connaître les conséquences chroniques et à long terme. Les effets immédiats, si quelqu'un a un accident ou meurt, c'est facile à identifier, mais ces produits peuvent aussi générer des problèmes plus larges, comme des cancers.
Les legal highs ne sont pas exactement nouveaux, puisque dans les années 80, un étudiant américain avait déjà essayé d'imiter une amphétamine. Les 20 personnes qui en ont pris ont tous désormais la maladie de Parkinson. Ce n'est pourtant que ces 5 ou 6 dernières années que le phénomène a vraiment décollé. Jonathan Beardwell est chercheur au think tank Demos. Il a été l'un des premiers à travailler sur ces drogues légales.
Ces produits sont apparus en 2008-2009 et chaque année, de nouvelles substances apparaissent. C'est ça le plus gros problème. Dès qu'un produit est interdit, ceux qui les inventent cherchent une nouvelle formule moléculaire pour le remplacer. Donc, la combinaison d'Internet qui rend la distribution très facile et la manne que les ventes représentent pour les fabricants fait que c'est un phénomène qui est là pour longtemps.
Impossible de savoir la taille du marché des legal highs. Les spécialistes parlent de millions d'euros pour les revendeurs et pour les chimistes qui concoctent ces produits, dont la plupart se trouveraient en Chine. Quelques grammes peuvent coûter l'équivalent d'une vingtaine d'euros. Quelques dizaines peuvent en coûter plus de 1000.
Il y a vraiment toutes sortes de gens qui prennent ces legal highs. Ce sont surtout les jeunes, mais en général, ce sont des gens qui n'ont pas accès au marché noir des drogues dures, comme l'ecstasy ou la cocaïne, et qui se tournent donc vers les drogues légales. Quelques personnes ont été motivées par le côté légal de ces produits, mais je crois que la plupart des consommateurs sont des gens qui ont déjà pris des drogues dures et qui veulent juste tester de nouveaux produits. Je ne crois pas que les legal highs soient la porte qui mène à d'autres drogues légales.
First step. En fait, toutes ces drogues dites légales ne le sont pas exactement. 250 substances ont déjà été interdites et dès que des scientifiques comme le professeur Ramsay en découvrent de nouvelles, ils informent le gouvernement qui prend un arrêté temporaire.
Chaque fois qu'un nouveau produit est découvert, les autorités étudient l'opportunité d'introduire une interdiction de 12 mois, le temps de faire des analyses pour en déterminer la dangerosité.
Jonathan Beardwell ne trouve pas cette méthode très efficace.
Nous avons proposé une méthode qui ferait porter la responsabilité sur ceux qui produisent ces drogues. Pour l'instant, du moment qu'ils marquent sur l'emballage impropre à la consommation humaine, ils se dégagent de toute responsabilité. Nous pensons qu'il faut réguler le marché en utilisant les lois commerciales pour que le producteur ne puisse pas se dédouaner.
Le professeur Ramsay, lui aussi, s'oppose à ce qu'on interdise ces drogues légales.
Je suis contre l'interdiction totale au nom du principe de précaution parce qu'on sait ce qui va se passer, de nouvelles substances inconnues vont émerger. Or, on connaît de mieux en mieux celles qui sont commercialisées aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut laisser le marché se réguler tout seul. Si ces produits font du mal et ne sont pas agréables, les gens vont, j'espère, simplement arrêter de les acheter. Et en même temps, il faut tout faire pour convaincre les jeunes de ne pas y toucher.
Le Royaume-Uni est le plus grand consommateur de legal highs en Europe. Mais Bruxelles s'est aussi penchée sur la question. L'UE a aussi opté pour les interdictions temporaires. Une solution qui a des limites, puisque 20% de ces substances considérées comme des produits industriels ne tomberont pas sous le coup de la loi. Londres a donc décidé de conserver son propre système. Greenland is shrinking. The ground it is sinking
and the ice melts like teardrops in the sea. Bonjour Pauline Curtet.
Bonjour Laurent.
Alors c'est un journal qui n'a pas froid aux yeux puisqu'il s'appelle The Arctic Journal, édition en ligne créée en 2008 et dont la rédaction est basée au nord du nord de l'Europe, Pauline.
Oui, puisque les journalistes permanents, qui ne sont que 5, travaillent de Nuuk, la capitale du Groenland. Cette immense île, qui compte seulement 50 000 habitants, se situe au-dessus du cercle arctique et revient souvent dans l'actualité internationale. Avec le réchauffement climatique, la glace qui empêchait l'exploitation de ces ressources naturelles fond de plus en plus. Résultat, les plus grandes compagnies pétrolières, minières et gazières au monde rendent régulièrement visite aux leaders politiques du Groenland. L'Arctic Journal veut, en quelque sorte, être le témoin de ces changements, pour qu'il ne passe pas inaperçu.
Alors en quoi le traitement de l'actualité arctique est-il différent, puisque l'Arctique fait déjà souvent les gros titres dans la presse internationale?
C'est vrai, on peut même dire que c'est devenu un sujet prépondérant. On l'a vu à la fin de l'année dernière avec l'arrestation des manifestants de Greenpeace par la Russie, après leur tentative d'entrer sur une plateforme pétrolière dans la mer de Barents. Mais bien souvent, cette région est traitée à travers le prisme du pays où le journal est publié. En France, on se demandera par exemple quelles sont les entreprises françaises sur place, quels intérêts elles ont à y investir. Plus largement, on s'interroge souvent sur les conséquences qu'aurait une fonte des glaces polaires sur la hausse du niveau des océans, sur le climat dans le monde entier, mais on ne se demande que rarement quels effets auront ces changements sur les quelques habitants du Groenland ou sur l'environnement local.
Alors en termes de sujet, cela donne quoi, Pauline ?
Eh bien, cela donne des sujets très larges. The Arctic Journal parle aussi bien du traitement de la tuberculose au Groenland que de la situation des populations autochtones en Laponie norvégienne ou au Canada, sans oublier de donner des informations de pointe sur les dernières nouvelles économiques concernant l'Arctique. Par exemple, pas un contrat d'exploration ou d'exploitation entre une compagnie minière et le gouvernement du Groenland n'est signé sans qu'il passe à la loupe des journalistes de l'Arctic Journal.
Le journal est basé au Groenland, vous l'avez dit. Est-ce qu'il ne couvre que ce territoire ?
Non, les éditeurs s'intéressent à tous les pays de l'Arctique, sans distinction. À la fois les pays dont une partie du territoire se trouve dans cette zone, comme la Norvège, le Canada, la Russie, les États-Unis avec l'Alaska, mais aussi les pays qui ont un intérêt économique dans l'Arctique. Et là, la liste est longue. Chine, Inde, Grande-Bretagne, Australie et même France, avec des entreprises comme le producteur nucléaire Areva ou la compagnie pétrolière Total. Bref, pour le site internet, les sujets à couvrir ne manquent pas.
Alors on sait que l'exploitation de l'Arctique fait débat depuis quelques années. Les écologistes craignent par exemple que les conséquences environnementales soient lourdes. Quelle est la position de The Arctic Journal sur ces questions ?
Justement, ce qui est appréciable, c'est que dans ce débat qui oppose des personnes aux positions très tranchées, The Arctic Journal ne veut pas prendre parti. Son but, c'est de parler de tous les enjeux liés à l'exploitation de l'Arctique, de donner des faits, et rien que des faits. Ces enjeux peuvent être bien sûr écologiques, par exemple pour marquer la visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Groenland, il y a quelques semaines, le journal a publié une vidéo très pédagogique. Cette dernière montre l'étendue très importante de la fonte des glaces arctiques enregistrée ces dernières années. Un phénomène qui a des conséquences économiques et écologiques.
Et il y a aussi des conséquences sécuritaires, Pauline.
Bien sûr, il suffit de penser à la question de l'uranium, utilisé entre autres pour fabriquer des armes nucléaires. Les mines du Groenland en regorgeraient. Résultat, l'île arctique est en train de négocier avec le gouvernement danois, qui chapeaute encore les questions de politique étrangère de cette province autonome, pour obtenir l'autorisation d'ouvrir des mines d'uranium. De son côté, The Arctic Journal évalue les conséquences, bonnes ou mauvaises, d'une telle autorisation, notamment sur les plans économiques et sécuritaires pour le monde entier. Le site internet fait cela avec sérieux. Le résultat, c'est que chaque jour, 30 000 internautes lui font confiance pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans l'Arctique.
Voilà, journal en ligne à retrouver sur articjournal.com. À bientôt, Pauline Curtet.
Merci Laurent, à bientôt.
Et à bientôt à tous, car c'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot, à retrouver tout de suite sur nos pages RFI, Facebook et Twitter.
Écho d'ici.